obscur, comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger, c'est faux, je sais que tu sais. Des fois j'aurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.
Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. La plateforme PDP Libre, une réponse communautaire à la réforme de la facturation électronique. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, l'ordinateur quantique et en fin d'émission, Adieu Windows. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 21 octobre 2025, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Et à la réalisation de l'émission, Julie Chaumard qui a une mise en place compliquée, quelques problèmes techniques à régler, mais elle gère comme d'habitude. Salut Julie.
Oui, on a bien démarré et bonne émission à tous.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
C'est l'heure du truc que presque personne n'a vraiment compris, mais qui nous concerne toutes et tous, la chronique de Benjamin Bellamy. Et aujourd'hui, Benjamin, tu veux nous parler d'ordinateur quantique.
Eh oui, car l'heure est grave. Figurez-vous qu'aux assises de la cybersécurité, l'ANSSI a tiré la sonnette d'alarme, rien de moins. L'ANSSI, c'est l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, c'est vous dire si c'est des gens sérieux.
Oui, ça fait peur. Et pourquoi l'ANSSI tire la sonnette d'alarme?
Eh bien parce que nous sommes au bord du gouffre, le précipice est déjà là. L'ordinateur quantique est à deux doigts de casser tous nos codes mot de passe, bye bye chiffrement. Alors, dit comme ça, ça pourrait faire penser à un mauvais film des années 90. Eh bien pas du tout, moi ça m'a fait penser à un excellent film des années 90, Les Experts, sorti en 1992, Sneakers en VO, avec Robert Redford, Sidney Poitier, Dan Aykroyd et Ben Kingsley, et dans lequel un groupe d'experts excelle dans les tests d'intrusion informatique. Je vous le conseille vraiment, hein, l'histoire est rondement menée, c'est passionnant, jusqu'au moment où ils découvrent l'invention d'un certain Janek, et je vous propose de redécouvrir ensemble cette scène mémorable, et vraiment mémorable, puisque j'y ai repensé dès que j'ai vu l'alerte de l'ANSSI.
Les programmes chiffrés sont créés à partir de problèmes mathématiques si complexes qu'ils sont impossibles à résoudre sans le code.
Janek semble avoir trouvé une façon de résoudre ses problèmes sans le code d'accès, et la synthèse de ses recherches est dans cette puce.
Allez, éteignez-le.
Quelqu'un a envie de descendre deux ou trois Boeing?
C'est dit d'éteindre! Éteins ça!
Alors, c'est un déchiffreur?
Non. C'est le déchiffreur. Il n'y a plus aucun secret.
Le déchiffreur. Mais LOL, Janek a inventé la puce capable de casser n'importe quel chiffrement.
Je te sens moyen convaincu.
Cette histoire de puce magique, ça m'a toujours agacé dans ce film. Ça tient pas la route, mathématiquement parlant.
Mathématiquement?
Tout à fait, c'est contraire aux mathématiques.
Les mathématiques, carrément. Explique.
Alors, sans partir dans un cours avancé de cryptographie, et pour simplifier, le chiffrement qui permet de sécuriser aujourd'hui quasiment toutes nos communications et toutes nos données, c'est juste des maths, des multiplications et des divisions entières.
Un peu plus, non ?
Eh ben, pas tant que ça. Tu vois à quoi servent les clés publiques et privées ?
Oui, bien sûr, mais je veux bien que tu me rafraîchisses la mémoire.
Eh ben, c'est très simple. Pour ça, j'ai juste besoin de pouvoir t'appeler Bob. Je peux t'appeler Bob ?
Oh, j'ai toujours rêvé de m'appeler Bob, vas-y.
Alors, Bob, imagine que tu veux envoyer un message à Alice. Tu vas chiffrer ton message avec une clé. Quand Alice va recevoir ton message chiffré, elle va le déchiffrer avec sa clé à elle. Le coup de génie de la cryptographie moderne, la cryptographie asymétrique, c'est qu'on utilise deux clés différentes pour la même serrure, une pour chiffrer, une pour déchiffrer. Une publique, une privée. Et ces deux clés fonctionnent ensemble et uniquement ensemble. Donc, quand tu écris à Alice, tu vas utiliser la clé publique d'Alice, qui, comme son nom l'indique, est publique, pour chiffrer ton message, et le message ne pourra être déchiffré que par la clé privée d'Alice, que seule Alice connaît, et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est privée.
Et si Alice veut me répondre, elle utilise ma clé publique.
Tout à fait.
Pour crypter la réponse qu'elle m'envoie.
Non, pas du tout.
Comment ça, pas du tout ?
Bah, sur le principe, ouais, je sens bien que ouais, t'as compris, mais si on veut être précis, on dit pas crypter, mais chiffrer.
Tu pinailles.
Alors oui, mais non. La cryptographie, c'est déjà assez compliqué. Si on n'utilise pas les bons termes, on va pas s'en sortir. Et si on utilise des termes qui n'existent pas, alors là, on est fichu.
Attends, crypter, ça n'existe pas ?
En français, non. On dit chiffrer quand on chiffre un message avec une clé. On dit déchiffrer quand on déchiffre un message avec une clé. On dit décrypter quand on déchiffre un message sans la clé. Et donc crypter, ça voudrait dire chiffrer un message sans la clé, ça n'a absolument aucun sens.
Ok, ok. Donc Alice va utiliser ma clé publique pour chiffrer ma réponse et moi ma clé privée pour déchiffrer le message. Quel rapport avec les maths et le film des experts ?
Tu tiens vraiment à savoir ?
Bah oui.
Alors, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, quand tu génères un couple de clés, bah, disons pour Alice, tu prends deux nombres entiers au hasard, P et Q, tu les multiplies entre eux et ça te fait un produit N. Facile, hein ? Avec N, tu vas chercher deux nombres D et E, tels que le reste du quotient de D fois E par P moins 1 fois Q moins 1 soit égal à 1. Pas très très dur, hein. Donc, t'as N, t'as D, t'as E. N et E, c'est ta clé publique. N et D, c'est ta clé privée. Donc, pour chiffrer un message M, il suffit de calculer M puissance E modulo N, simple et basique, mais surtout rapide.
Oui, facile. Et pour déchiffrer, on fait exactement pareil, mais on utilise N et D à la place de N et E. Donc, pour déchiffrer le message M, je calcule M puissance D modulo N, c'est ça ?
Exactement, t'as tout compris.
Ah, non mais n'importe quoi, j'ai rien compris, je balance juste les phrases que tu me forces à lire.
Moi je suis sûr que t'as compris. Mais bref, tout repose sur le fait que dans la clé publique on a N, mais pas sa décomposition en nombres premiers P et Q. Sinon, on aurait aussi E et D, et du coup on aurait toutes les clés. Donc toute la beauté du système repose sur le fait que faire une multiplication P fois Q, ça va très très vite, mais à l'inverse, factoriser N en nombre premier, c'est très très long.
Donc comment ?
Une clé standard RSA aujourd'hui, c'est 2048 bits. Le record, c'est avec une clé 829 bits qui a été cassée en 2700 années cœur, donc sur une machine à 12 cœurs, faut compter plus de 200 ans.
Oui, donc la puce de Janek, c'est du pipeau.
Eh ben en fait, je dois t'avouer que pas si sûr.
Ah, c'est là qu'intervient l'ordinateur quantique, je parie.
Bingo. On prévoit qu'avec un ordinateur quantique, on pourrait casser RSA 2048 en quelques minutes.
Tu dis « on prévoit » parce que c'est de la science-fiction ?
Alors, on a la théorie, on a des prototypes, mais pour l'instant limités à 21.
21 ? 21 gigahertz, 21 gigaoctets, 21 chiffres ?
Ah non, 21, 3 fois 7. Aujourd'hui, un ordinateur quantique... On est capable de factoriser 21 en 3 fois 7. Bon, autant dire que pour du chiffrement à 2048 bits, on a encore un peu de marge.
Ah oui, oui. Mais il y a un truc que je comprends pas. Les ordinateurs sont plus puissants chaque année depuis que les ordinateurs existent. Les systèmes de chiffrement suivent cette évolution. Pour être tranquille, il ne suffit pas de prendre des clés de plus en plus longues. Et si l'ordinateur quantique arrive, on les rallongera un grand coup. Le moment voulu, non ?
Alors oui et non. Effectivement, on pourrait se dire que si on a des machines qui sont plus rapides pour décrypter, on a aussi des machines qui vont plus vite à chiffrer. Mais le risque, celui qui inquiète l'ANSI, c'est que tous les messages que l'on chiffre aujourd'hui, ils peuvent être interceptés par des personnes mal intentionnées, mis de côté et décryptés plus tard quand les moyens techniques le permettront. Est-on sûr que nos secrets d'aujourd'hui ne le seront plus demain ? Il y a un vrai risque là.
Je comprends, c'est plus clair. J'ai quand même une dernière question. Comment se fait est-il que tu fasses une chronique sur l'ordinateur quantique sans mentionner une seule fois le chat de Schrödinger ?
Alors, déjà parce que donner du cyanure à un chat, ça n'a jamais permis à personne de comprendre la mécanique quantique. Schrödinger, il voulait juste montrer à quel point la mécanique quantique devenait absurde quand on l'appliquait au monde réel. C'est tout. Donc, s'il vous plaît, laissez les chats tranquilles et arrêtez de les enfermer dans des boîtes. Maintenant, ça suffit.
Eh bien, merci Benjamin. Et on te retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique et tous les mercredis dans RDGP, en podcast et sur le Fait Divers.
Merci.
Et je précise, il y a eu pas mal de termes techniques évoqués, par exemple la cryptographie asymétrique, tout ça. On vous a mis des liens pour aller un petit peu plus loin sur la page de l'émission. Salut Benjamin.
Salut.
À présent, nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de la plateforme PDP Libre, une réponse communautaire à la réforme de la facturation électronique. Avant cela, nous allons écouter Tout est relatif par Lotsana. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écho de Cause Commune, la voix des possibles.
J'ai des frissons, des émotions, de droite à gauche, du rouge au bleu, des journaux, des télévisions, images de Gandhi, d'Hortefeux. Misanthrope et dépressif, j'aime la terre comme l'humanité, puisque tout est relatif. Relatif. Égoïste tout autant qu'altruiste, je balade dans ma société la joie dans le cœur, le regard triste. J'avance avec ambiguïté. Misanthrope et dépressif, j'aime la terre comme l'humanité. Prisonnier de ma liberté, j'admire ou j'ignore à mon aise, différence et fraternité, la Marianne et la Marseillaise.
Misanthrope et dépressif, j'aime la terre comme l'humanité.
Écoutez Tout est relatif par Lotsana, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Passons à présent à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur la plateforme PDP Libre, une réponse communautaire à la réforme de la facturation électronique, avec Philippe Scofoni et Florent Pellet, respectivement président et vice-président de l'association qui organise ce projet. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission libreavoue.org/258 ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez le podcast. Philippe, Florent, est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Oui, tout à fait, bonjour.
Bonjour, bonjour, ben merci à nous rejoindre. Alors, comme je disais, la mise en place au début a été compliquée, mais je pense qu'on vous entend bien et on va pouvoir avoir une heure devant nous pour évoquer un sujet complexe et très intéressant. Je trouve que c'est une belle illustration de ce qu'il est possible de faire de manière communautaire avec du logiciel libre. Mais pour commencer, je pense qu'il pourrait être bien, de manière très classique, de savoir qui vous êtes, voilà, que vous êtes et qui on va entendre pendant l'heure à venir. Philippe, je te propose de commencer. Et voilà, donc nous présenter voilà, d'où tu parles et puis peut-être ton rapport au logiciel libre en quelques mots.
Ça marche, bonjour à tout le monde, j'espère qu'on m'entend bien, je sais que je suis un peu la cause de quelques problèmes techniques. Voilà, donc Philippe Scofoni, donc bon, j'ai plusieurs casquettes, donc effectivement, celle pour laquelle je suis présent aujourd'hui, celle de président de PDP Libre. Bon, sinon, je suis le dirigeant d'une société, intégrateur de logiciel libre, bien sûr. Logiciel libre, notamment de Libar, qui est un ERP, d'où le lien avec la facturation électronique. Voilà. En tant qu'utilisateur, ça doit faire 20-25 ans à peu près. Et on va dire qu'à titre professionnel, bon, ça fait une douzaine d'années que j'ai créé ma société et que on a un peu basé tout notre développement sur le logiciel libre. Voilà.
Alors je vais préciser qu'on a déjà parlé de Libar et d'ERP, des logiciels ERP. D'ailleurs avec toi Philippe, c'était en mars de cette année l'émission 238. Oui. Donc si vous voulez creuser un peu plus le sujet, je vous invite à vous rendre sur libreavoue.org/238. Florent, même question, voilà. D'où parles-tu et puis est-ce que tu as quel rapport tu as à l'informatique libre ?
Je suis CTO et cofondateur de Superindep. C'est une société qui accompagne les micro-entreprises sur tout ce qui est administratif et notamment sur la facturation. Donc déjà, spoiler, tous les micro-entreprises seront impactés par la facturation électronique, même s'ils ne sont pas à TVA. On creusera plus après. Sinon, ceux qui sont sur Lyon, je co-organise les crafters Lyon sur les UC. Des rendez-vous sur les rencontres, sur les pratiques dev. Et sinon, mon rapport avec le logiciel libre, c'est pas une question facile, tellement que libre est omniprésent et la base de l'économie actuellement. Je dirais c'est mon rayon soleil dans ce monde capitalisme.
C'est joli, belle formule, je la reprendrai sans doute. Merci pour ces présentations. Alors effectivement, voilà, PDP Libre, bien sûr, on va expliquer ce que ça veut dire. Hein. C'est lié à une réforme qu'on va expliquer. On va parler de certains enjeux, notamment ce qui concerne spécifiquement les micro-entreprises avec Florent, comme il vient de l'expliquer. Mais avant de parler de ce projet PDP Libre, je pense qu'il va être intéressant peut-être de reposer le contexte pour avoir des éléments de compréhension compréhensible justement par l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Et j'ai envie d'abord de commencer avec vous, de parler c'est quoi la facturation électronique ? Parce que voilà, on sait qu'il y a les logiciels d'encaissement, on a parlé d'ERP, alors d'ailleurs il faudra redéfinir, je vais te demander de redéfinir Philippe ce que sont les ERP en peu de mots pour les personnes qui n'auraient pas le temps là tout de suite d'aller réécouter tout un podcast en entier. Et j'en profite puisqu'on parle d'acronymes et d'expressions, Florent a parlé de CTO, c'est les Chief Technical Officer, c'est les chefs techniques en gros qui s'occupent de gérer les aspects techniques d'une société. Bon, si on peut, ça te va Florent ? Comme définition très sommaire. Ok. Philippe, je te passe la parole pour que tu puisses dire en deux, trois mots ce que c'est un ERP, comme ça, et puis après parler de facturation électronique pour voir justement comment ces notions s'insèrent l'une avec l'autre.
Ouais. ERP, c'est un acronyme anglo-saxon qui veut dire Enterprise Resource Planning. Donc l'objet d'un ERP, c'est un logiciel de gestion d'entreprise. Voilà, pour faire ça, alors pas que l'entreprise, on peut gérer des structures associatives hein, avec des coopératives, etc. Et donc l'objet, c'est de traiter tout ce qui va être, je dirais, le qui touche aux ventes, du devis, des commandes, des factures, les encaissements, etc. Mais aussi les achats, les commandes fournisseurs, le règlement des factures fournisseurs, la gestion des trésoreries, et par extension, on va venir ajouter tout ce qui est catalogue de services, de produits, entrepôts, stock, mouvement de stock, de la fabrication. L'idée, c'est d'avoir un gros logiciel qui centralise en fait toutes les d'entreprise dans un seul lieu entre guillemets et voilà qui permet d'optimiser un petit peu tous les processus de fonctionnement de l'entreprise. Voilà.
Bah ça me paraît clair. Alors comment s'inscrit parce qu'on parle de facturation électronique, peut-être que ça pourrait être même réintéressant avant de parler de l'aspect électronique de repréciser c'est quoi la facturation concrètement et quels sont voilà, les enjeux qui peuvent s'y attacher et notamment si on parle de facturation électronique. Florent, si tu veux à présent, voilà.
Oui, bah alors c'est, on va dire, si on veut vendre une prestation ou vendre un bien et être payé, à partir d'un certain montant, on est obligé de fournir une facture. Et donc ça fait une preuve qu'il y a eu cette transaction financière pour l'achat de ce bien.
Très clair.
Donc ça, c'est. Rien de bien nouveau par rapport à ça. Et donc la facturation électronique, c'est pas juste envoyer la facture au format PDF. Non, c'est tout un cadre où il va falloir envoyer la facturation à un tiers, etc.
D'accord. Et c'est... Vas-y Philippe.
Non, c'est juste l'historique de cette réforme, c'est une réforme juridique, enfin légale, qui est poussée par l'État et qui aujourd'hui se place dans un cadre européen avec une directive qui impose donc la dématérialisation, parce que c'est ça dont on parle, la dématérialisation de tous les flux de factures en Europe pour 2030.
Parce que, si je comprends bien, jusqu'à présent, il y avait bien sûr une obligation de suivi comptable, de facturation pour avoir différents suivis. La facturation électronique était juste une manière de répondre à l'enjeu. Et là, il y a eu une réforme au fin 2023, si je ne me trompe pas, dans le projet de loi de finances pour 2024, celle que tu évoques, et qui rend obligatoire la dématérialisation, donc le recours à la facturation électronique. Est-ce que je résume bien la situation ?
En quelques sous, oui, presque.
Ah bah, alors, corrige-moi.
Donc en fait, bon, l'idée, c'est aujourd'hui, comme le disait Florent, on peut envoyer des factures en PDF, hein, par email, ou par papier, on les imprime, par courrier, etc. Ça, c'est l'obligation actuelle. La réforme de la facturation électronique, elle impose de le faire de façon dématérialisée. C'est-à-dire que je dois transmettre via un système informatique, on va en parler, qui avec un format donné. Il y a des formats qui ont été définis, toutes les données que contient ma facture, les montants et notamment la TVA, puisque l'objectif premier de cette réforme, c'est encore une fois de lutter contre la fraude à la TVA. Voilà. Donc cette télétransmission des factures, ça doit permettre à terme de pré-remplir tout ce qui est déclaration fiscale, déclaration de TVA. Et de permettre à l'État d'avoir une sorte de pilotage économique un peu en temps réel des flux financiers dans le pays. Puisque là, chaque fois qu'on enverra une facture, l'État la verra passer en quasi temps réel. Donc ça couvre toutes les factures qui sont émises en France. Ça fait 2,5 milliards de factures par an.
Ah oui, c'est, en termes d'ordre de grandeur, on est quand même sur quelque chose voilà. D'assez conséquent. Ouais. Florent, tu voulais compléter là-dessus ?
Oui, après, alors donc clairement, le but principal, c'est de lutter contre la fraude à TVA. Après, ils ont quand même des arguments pour donner envie pour les intégrateurs et tous les acteurs, et notamment pour réduire le coût d'intégration des factures dans le côté où il n'y aurait plus qu'un seul tuyau, où toutes les factures arriveraient. Donc je n'aurais pas les factures sur le portail du fournisseur 1, le fournisseur 2, etc. Ça arrivera tout directement.
Directement.
Et en plus, normé.
Ouais. Juste pour bien comprendre, donc il y a, voilà, moi je suis une entreprise, j'émets des factures et il faut, que je les transmette quoi, à l'administration fiscale.
Oui, alors c'est pas tout à fait ça. Justement en France, ils ont choisi un mode. À la base, ils avaient choisi un mode hybride, un mode où il y avait un portail public, donc n'importe qui gratuitement pouvait déposer des factures et récupérer ces factures s'ils choisissaient ce portail, ou on pouvait choisir des acteurs privés qui pouvaient vendre des services annexes, par exemple pour faciliter la transition avec des reconnaissances de caractère pour convertir facilement la facture, ou d'archivage, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et donc on devait déposer ces factures sur ce genre de portail, et ensuite ce portail transmet la facture au portail choisi par le client, et le client du coup reçoit ensuite sa facture sur son portail. Et donc, on n'envoie plus directement la facture en mail directement à son client.
D'accord.
On est obligé de passer par cet intermédiaire.
Donc, oui, la question du... Parce que vous évoquez un tuyau unique, c'est pour la transmission de... Oui, en fait, c'est moi qui me suis trompé. C'est pour la transmission de l'éditeur de la facture vers le client qui a besoin de sa facture.
Alors, pas tout à fait, parce qu'on peut avoir... dans certains cas, on peut utiliser plusieurs plateformes pour émettre les factures. Par contre, pour la réception des factures, là, on n'a qu'un seul tuyau.
D'accord.
Donc en fait tu vas choisir ton portail pour réceptionner les factures, et toutes tes factures vont arriver via ce portail, via l'interconnexion des différents portails.
D'accord.
C'est plus clair.
Je suis pas entièrement sûr. Philippe, comment toi tu définis? Je pense que ce sera complémentaire. Parce que c'est vrai que c'est des notions qui sont pas forcément évidentes quand on suit pas ça au quotidien. Donc voilà.
C'est pas simple du tout. Faut imaginer effectivement qu'une entreprise, elle a son logiciel qui lui permet d'émettre des factures. Donc ces factures, elle va les transmettre. Alors effectivement, initialement, elle devait les transmettre potentiellement à ce portail public de facturation ou à un tiers privé qu'elle aurait choisi. Ok, donc ça, c'est le fait de déposer ces factures, soit un tiers privé, soit sur le portail public de facturation, revenait à transmettre les données à l'État, donc qui pouvait collecter la TVA, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis en octobre 2024, ce fameux portail public de facturation a été abandonné. L'État a dit non, on ne le fera pas. Donc, ça c'est un peu le point de départ de PDP Libre, on s'est rencontré avec Florent, c'est que l'État a supprimé ce portail public de facturation, ne nous laissant plus que le choix à nous, entreprises, pour émettre nos factures, de passer par ces fameux tiers qui s'appelaient initialement les plateformes de dématérialisation partenaires, qui ont été renommées récemment en plateformes agréées, bien qu'elles ne soient pas encore, c'est en cours, le fait d'être agréées. Donc aujourd'hui, mon logiciel de gestion dans mon entreprise, il doit transmettre la facture à une de ces plateformes. Sont des plateformes qui sont référencées par l'État. Aujourd'hui, il y en a plus de 100.
D'accord. Bon.
Et cette plateforme-là a pour responsabilité de transmettre les données à l'État et de transmettre ma facture à mon client.
D'accord.
Et si je change de casquette, maintenant je suis le client. Mais moi, je me suis déclaré auprès d'une plateforme. Donc il y a un annuaire central qui référence qui est déclaré auprès de quelle plateforme et qui va permettre de faire circuler toutes les factures. D'accord ? Donc la facture qui a été émise, elle arrive sur une plateforme, la plateforme regarde qui est le destinataire. En fonction de ça, elle va envoyer la facture à la plateforme du destinataire.
D'accord.
Le destinataire récupérera du coup la facture dans son logiciel de gestion, dans son logiciel de comptabilité, où il veut. Voilà. Ça, c'est techniquement un des avantages de la réforme, c'est que du coup, on n'aura plus à saisir les fameuses factures que l'on reçoit, qui représentent des fois un boulot important, ou passer par des logiciels de reconnaissance de caractère, puisqu'on aura complètement dématérialisé et structuré le contenu d'une facture.
D'accord. Donc, alors déjà, tu as parlé de plateforme dématérialisée partenaire et je me. Donc, PDP libre, voilà. C'est juste pour faire ce lien, peut-être, voilà, pour clarifier un peu. Je pense, si je vous entends bien, on parle quand même très particulièrement des cas de facture entre entreprises, là, c'est pas ou ça concerne aussi les, a priori pas trop les particuliers.
Non, ça va concerner tout le monde.
Tout le monde, d'accord.
Concerner la facturation vers les entreprises, vers le secteur public, bien entendu, vers les et tout ce qu'on facture à des particuliers.
Okay.
C'est le format, okay. façon techniquement dont on va transmettre les données qui sera différent, puisqu'en fait, il y a deux volets. Il y a ce qu'on appelle le. Alors, c'est en anglais, je suis désolé, mais c'est comme ça. Il y a le e-invoicing. Là, qui concerne effectivement les structures, les transactions vers les entreprises, entre entreprises, et le e-reporting, qui concerne les transactions vers les particuliers, mais aussi tout ce qui est achat et vente à l'international.
D'accord. Ce i, c'est le e en anglais pour dire électronique, c'est voilà.
C'est ça.
Donc si je comprends bien, pour résumer, à la base, avant la réforme, il y avait une problématique de fraude à la TVA, et la réponse des pouvoirs publics, c'est de dire eh bien, on va dématérialiser en imposant certains formats, certaines règles à suivre, et certains formats pour que finalement ce soit rédigé d'une certaine manière et que ça passe par certains tuyaux, pour pouvoir bien vérifier ce qui a été dit du côté de l'entreprise et ce qui a été reçu du côté du client correspond bien, et que les sommes correspondent pour que l'État puisse prélever, enfin que les pouvoirs publics puissent prélever la TVA due.
Oui, alors après,
vas-y, Florent.
Le prélèvement de la TVA, c'est hors scope pour l'instant.
D'accord.
Parce qu'il faut toujours faire sa déclaration de TVA, etc.
Okay.
Là où ça réduit un peu le PMS, c'est que justement la différence entre les deux formats, c'est que pour une facture entre professionnels, la facture, on peut plus l'envoyer directement au client, on est obligé de passer par portail. Donc si on facture quelque chose, bah, l'État aura en quelque sorte vu la facture. Et pour les particuliers, souvent, on donne pas forcément de facture. Par exemple, si on achète un café, on va pas avoir une facture.
Oui.
Et donc là, c'est plutôt une agrégation des données et qui sont envoyées au portail.
D'accord. Ok. Alors, on comprend le pourquoi ils ont enclenché cette réforme. Et donc, cette question de la plateforme d'État, à la base, elle était dans la réforme, la plateforme publique, et ils ont abandonné après coup, ou c'était... C'est pour comprendre, parce que c'est vrai que ça paraît étonnant, paraît étonnant de s'appuyer complètement sur le secteur public, alors ce qui devrait plutôt relever quand même du périmètre des services publics.
Oui, elle était clairement dans le texte de loi initial. Alors, je crois qu'elle y est toujours.
Oui, ils n'ont toujours pas fait,
pas encore osé faire le ménage dans le projet de loi initial qui date de 2022, je crois. Donc, ce fameux portail public gratuit, c'était écrit dans le texte de loi, il figure toujours. Voilà.
D'accord.
Donc, il y avait eu un premier planning de déploiement de la facture électronique. Qui était clairement, enfin je pense, un peu irréaliste dès le départ, mais ils y sont allés quand même. Il y a eu, je pense, donc un premier décalage, et je pense que pour pas décaler de plus, l'État, et au vu devant la présence de plus de 80 plateformes candidates, plateformes privées candidates, a dit bah on va se contenter de faire le service minimum. Donc plus de portail public de facturation, donc c'est un communiqué de presse de la DGFiP d'octobre 2024 hein, qui l'annonce, vous passerez par une plateforme privée.
D'accord. Alors moi,
les plateformes privées parleront avec l'État.
Alors j'ai l'impression qu'il y a deux problématiques. Alors déjà, en fait, le principe même de la dématérialisation, qu'on comprend le pourquoi des commandes des enjeux, mais on imagine qu'il y avait peut-être d'autres solutions techniques, d'autres manières de mettre en place cette dématérialisation, c'est ce qui m'a semblé comprendre. Et puis le problème ensuite de s'appuyer sur le secteur privé. Bah déjà sur l'aspect, la modalité technique choisie, est-ce qu'il y a des problématiques particulières qui s'attachent au choix qui a été fait, et notamment dans une perspective bah, pour ceux qui éditent et qui intègrent du logiciel libre.
Alors. Pour moi, c'est une interface technique, donc logiciel libre ou pas, j'ai envie de dire, ça ne change rien.
Oui.
Le problème pour moi, alors, si on revient sur les valeurs du logiciel libre, c'est plus le fait que je suis obligé de transmettre à des tiers privés toutes mes données de vente et d'achat.
Ah oui.
À qui je vends, à qui j'achète, qu'est-ce que j'achète, à quel prix, etc. À tel point que sur certaines... profession, médicale, avocat, etc. Je sais qu'il y a des grosses discussions en cours parce que bah, il y a le problème de la confidentialité des données et professionnelles.
D'accord, ouais, on voit déjà un aspect important des enjeux. Et de ton côté, Florence, que tu disais, en plus, tu as peut-être une casquette plus, un regard plus porté sur les micro-entreprises. De ce point de vue-là, comment, c'était quoi les problématiques, enfin, c'est quoi le problème avec finalement la solution qui est en train de s'imposer?
Ouais, c'est un gros problème parce que quand on est une micro-entreprise, et c'est très varié. Il y a des personnes qui gagnent bien leur vie, un bon chiffre d'affaires, etc. Et donc ça sera à la limite transparent parce qu'ils ont souvent déjà un logiciel pour faire leurs factures, etc. Mais une grosse partie des micro-entrepreneurs sont micro-entrepreneurs parce qu'ils ont vendu 2-3 trucs dans l'année. Et donc c'est la meilleure façon pour pas déclarer au black, déclarer légalement, son intitulé et facturer. Et donc ceux-là, il y en a beaucoup qui n'ont même pas le logiciel de facture. Et donc ça pose des problèmes parce qu'il va falloir qui s'équipe. Et en termes de chiffres, on parle de quand même plus de 3 millions de personnes. Donc c'est pas rien, quoi.
Peut-être rappeler ce que c'est une micro-entreprise, parce qu'on discute comme si tout le monde savait ce que c'était une micro-entreprise, si tu veux bien nous peut-être
ouais,
nous rappeler.
Tout à fait. C'est vrai que je suis dedans et à force de côtoyer. Mais du coup, c'est une forme. En fait, une structure, une entreprise peut avoir différentes statuts. Donc il y a des il y a SAS, UAL, micro-entreprise. Une micro-entreprise, c'est justement un régime spécial. Et en fait, c'est un régime très simplifié. C'est pas simple parce que ça reste une entreprise quand même. Mais c'est le régime le plus simplifié qu'on a en France. Et donc ça permet de créer son entreprise en une heure sur Internet et de pouvoir facturer ensuite quelque chose, donc vendre des choses sur Internet.
Ça explique qu'il y en a 3 millions, que ce soit effectivement une forme qui soit assez très répandue.
Tout à fait. Okay. Souvent, il y en a en plus, c'est une activité complémentaire.
Ok. Et ce que je comprends, c'est ce que tu me dis, et c'est vrai que bah, finalement, en imposant ça et en imposant passer par les privés, il y a un marché qui s'est créé, mais aussi du coup que ça impose des nouveaux frais, qui sont peut-être très lourds pour des micro-entreprises, peut-être pas que pour les micro-entreprises d'ailleurs.
Ouais, tout à fait. En fait, ils se basent sur. Ils disent souvent que en fait, pour le traitement d'une facture, ça coûte genre 10, 5 ou 15 euros. Mais ils se basent surtout sur les grosses sociétés. Pour un micro-entrepreneur, quand je reçois une facture de mon téléphone, bah, je ne paye pas 15 euros. Ça ne me coûte pas 15 euros pour recevoir la facture.
Oui.
Et donc maintenant, je vais devoir passer par un service tiers et payer, vu que c'est une boîte privée, forcément il faut qu'elle se rémunère. Et donc du coup, je vais devoir payer pour recevoir ma facture et pour émettre mes factures. Et en plus, comme je suis une micro-entreprise, c'est-à-dire que j'envoie souvent peu de factures, bah, vu que j'ai pas de volume, bah, la plupart des plateformes, ils vont même pas vouloir travailler avec moi, ou autrement, ils vont me vendre un forfait minimum assez élevé pour que je puisse travailler avec eux.
Donc en fait, si je comprends bien, il y a eu cette réforme bon, avec les justifications qu'on peut comprendre, mais ça crée une situation matériellement où qui va poser des, qui est pas adapté. En fait, comme souvent d'ailleurs dans des projets, quand ils veulent réformer certains marchés, ils prennent comme par défaut la valeur des grosses boîtes ou des comme modèle classique, on va dire modèle par défaut. Mais du coup, on se retrouve dans une situation qui est pas adaptée aux micro-entreprises parce que c'est trop cher, trop lourd, qui pose des questions notamment pour toutes les entreprises, notamment du logiciel libre, mais pas que bien sûr, sur des questions de confidentialité, de partage de l'information, etc. Et donc là, on voit voilà, qu'il y a toute une diversité de problèmes parce que la réforme n'est pas adaptée à la diversité des réalités.
En gros, et puis, je rajouterais aussi, oui. Il peut avoir un conflit d'intérêt avec une société privée. On peut voir sur les moyens de paiement, il y a des professions qui ne veulent pas utiliser la carte bancaire parce qu'ils sont bannis par Visa et Mastercard. Alors que d'avoir une solution publique, bah, ça apporte le côté neutralité. C'est que n'importe qui peut facturer tant que l'activité est légale et gratuitement. C'est pour ça que le portail semblait indispensable, le portail public.
D'accord. Et donc, à défaut de portail public, et on va commencer à rentrer, enfin, basculer le sujet vers justement PDP libre, là, on comprend un petit peu quel a été l'élément perturbateur de notre histoire et qui a nécessité finalement bah, que des personnes, et vous en faites partie, donc se retroussent les manches pour essayer de trouver une réponse à ces problématiques. Et je pense, du coup, vous avez posé en fait l'histoire, enfin, la genèse finalement de ce qui a abouti à PDP libre, si je comprends bien. Ce que je vous propose, c'est avant justement qu'on parle de PDP libre, sauf si vous avez encore un petit élément de contexte à nous reproposer, on fait une petite pause musicale, comme ça on attaque frais, l'esprit frais sur, pour parler de PDP libre plus spécifiquement. Est-ce que vous aviez un dernier mot à dire pour poser le contexte?
Juste les dates.
Vas-y. Ah, oui, important. En plus, je l'avais noté. C'est quoi les timings? Oui, parce qu'il y a une réforme, les réformes sont rarement d'application immédiate. C'est quoi les dates?
Donc, 1er septembre 2026, réception obligatoire pour tout le monde.
Donc, dans un an. Même pas.
Et émissions que pour les grandes entreprises et les ETI. Et 1er septembre 2027, c'est pour tout le monde l'émission et donc la réception.
D'accord. Ce qui est effectivement un et deux ans, ce qui paraît loin, mais pour ce genre de choses et pour les genres de changements que ça impose, en fait, c'est des délais qui sont très courts encore. Il ne reste pas tant de temps que ça pour enclencher tous ces changements. Oui. Merci d'avoir soulevé ce point essentiel. Philippe Florent, je vous propose donc une rapide pause musicale et après, on parle de PDP libre. Donc, nous allons écouter Play Dead par Fog Lake. On se retrouve juste après à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. D'écouter Play Dead par Fog Lake, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY. Nous allons poursuivre notre discussion. Vous êtes toujours sur la radio Cause Commune et vous écoutez Libre à vous. Je suis Étienne Gonu de l'April. Je suis en compagnie de Philippe Scophonie de Florent Pelet, respectivement président et vice-président de l'association pdplibre.org, un projet de plateforme communautaire pour répondre à la réforme de la facturation électronique que nous avons expliqué autant que nous le pouvions en première partie d'émission, parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe. N'hésitez pas à participer à notre conversation 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Et à présent, après avoir parlé de cette réforme de la facturation électronique, nous allons parler évoquer ce projet PDP Libre, qui est donc une réponse communautaire à ce problème partagé. Et pour ça, moi, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir Florent et Philippe, parce que je trouve que c'est précieux de montrer ce genre d'exemple où des gens qui se mettent ensemble pour répondre à un problème commun. Et ce que permet notamment le logiciel libre, c'est au cœur quand même l'entraide, une des valeurs cardinales, on va dire, je pense, du logiciel libre. Je pense ne pas me tromper en le disant. Donc voilà, on a posé tout ce contexte-là. Philippe, voilà, tu as évoqué, voilà, vous êtes rencontrés, parce qu'en plus vous venez finalement de. Alors Philippe, toi, tu, comme tu l'as rappelé, tu travailles notamment avec un logiciel qui s'appelle Dolibar et qui permet de faire de la facturation. Florent, toi, tu viens plus de la micro-entreprise, du service aux micro-entreprises autour de la facturation notamment, si j'ai bien compris. Comment ça est né un petit peu cette idée de projet? Donc on a compris les enjeux qu'il cherchait à adresser, et comment ça a commencé à se former? Qui veut commencer à nous raconter cette histoire? Alors, Philippe, je crois que tu étais vraiment au démarrage de cette
Florent
idée.
Florent était là aussi.
D'accord.
Je pense qu'on a eu tous les deux la même réaction, épidermique à l'annonce de suppression du PPF.
Le PPF, c'était la plateforme publique que vous aviez mentionnée. Ouais.
La plateforme publique gratuite, sa suppression, et puis quelque part la mainmise de cette réforme entre uniquement des acteurs privés.
D'ailleurs, je pense que c'est intéressant pour le contexte. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup, 80, je crois. C'est très réparti ou au contraire, on a quand même des acteurs dominants sur ce marché-là? Parce que c'est quand même aussi...
Non,
c'est pas possible de dire qu'il y a deux. Ok, ça marche. C'est juste pour avoir
aujourd'hui, contexte. Aujourd'hui, non, possible. On ne sait pas. C'est d'accord. Pas qui sera dominant.
C'est naissant comme marché. Ouais.
Plus de 100... Ouais, enfin,
il n'y a pas encore client, en fait.
Il n'y a pas de clients, c'est
oui,
ça.
Ok, oui. Très bien, ça résume bien le problème.
Il va y avoir des millions de clients, mais on ne sait pas qui va les avoir.
D'accord. Donc, désolé pour cette parenthèse. Donc, oui, vous avez cette réaction épidermique. Vas-y, Florent.
Je rajouterai un truc, parce que ça peut être intéressant. C'est qu'actuellement, il y a plus d'une centaine. Par contre, en fait, tous les 100 PDP ne sont pas tous identiques. Parce qu'il y en a qui sont à usage essentiellement interne. Comme par exemple les grosses banques ont leur propre PDP en interne,
c'est la plateforme,
ils n'ont pas vocation à être accessible à l'extérieur. Et il y a d'autres portails qui sont d'éditeurs, comme Cegid, qui vont avec leur offre package, ils vont en plus de leur logiciel, ils vont proposer le PDP pour que leur logiciel s'intègre, etc. Et un troisième type, qui sont des pure players, qui existait pour beaucoup déjà avant, par rapport à tout ce qui est dématérialisation, etc.
D'accord, oui, c'est un contexte, c'est une précision importante, et surtout qu'en plus j'ai l'impression que ça me pose une autre problématique, c'est que dans le cadre de grosses offres où tout est inclus, on imagine que ça peut créer des dépendances supplémentaires à un acteur en particulier, à une entreprise en particulier. D'accord, donc pour revenir à... Merci de cette précision. Donc Philippe, tu commençais, avant que je t'interrompe, à nous expliquer que voilà, donc vous aviez cette réaction hyperdermique à la suppression de la plateforme gratuite maintenue par les pouvoirs publics, et on voit déjà quand même toutes les problématiques d'égalité devant le service public que ça pose. Et donc voilà, donc vous avez cette réaction et vous commencez à vous poser, j'imagine, la question de comment on peut répondre à trouver une réponse à cette situation.
C'est ça, donc premier réflexe, moi, ça a été de dire, puisque c'est comme ça, on va en faire une, mais on va faire le job de l'État au travers d'une structure, après associative, c'est le point de départ. Voilà, donc l'idée a été lancée comme ça, bon, comme d'hab, sur les réseaux sociaux, un dimanche soir, il y a Florent qui a dit qui était pas loin, qui a lancé la même chose en parallèle, on s'est croisés. Voilà. Et puis de fil en aiguille, on a essayé de rameuter un maximum de personnes dans nos réseaux respectifs. Bon, moi beaucoup dans le monde de l'ERP open source, on va dire, de manière générale. Et d'organiser comme ça une première visio. On s'est retrouvé, je sais pas, quand même 50 ou 60 personnes. Pour essayer de voir comment on pouvait monter quelque chose, s'organiser. Voilà.
Tu veux compléter, Florent ?
Oui, parce qu'on a parlé aussi, il y a beaucoup des micro-entreprises, mais il y a aussi tous les PME et TPE qui, pareil, n'ont pas des énormes volumes et qui ont ces problématiques. Et donc l'idée, c'est de fédérer justement toutes ces personnes, tous ces acteurs économiques, également les associations d'ailleurs, pour montrer que qu'il y a un problème sur la réforme. Et donc effectivement au début on était parti sur faire un PDP libre, donc avec une structure désintéressée pour garantir que on va pas revendre, on n'utilisera pas les données et qu'on fera pas de profit. Et libre sur le côté, gouvernance libre, open source, etc.
Bah, on va revenir sur tout ça, mais je vais peut-être juste pour donner peut-être plus précisément, je vais lire votre page, la page, s'il y a un site qui est d'ailleurs qu'on partage sur le site de l'émission, pdpi.org, une association à but non lucratif ayant pour but de rendre accessible la facturation électronique au plus grand nombre. Je pense que ça synthétise très bien ce que vous venez de nous expliquer. Donc ça c'était quand est-ce donc il y a eu cette première visio, ça fait alors de mémoire un an et demi à peu près peut-être.
Ouais, c'est en octobre à l'annonce comme quoi ils abandonnaient le portail.
D'accord, donc ça fait un an. Ce qui est en fait assez récent, on voit déjà, enfin, avec l'efficacité dedans, mais moi je suis impressionné par l'efficacité, enfin, je trouve, voilà, que c'est une belle histoire, si on peut dire ça comme ça. Donc, vous avez ces premières visios, cette décision, donc, de proposer une plateforme libre, accessible, avec une gouvernance partagée. Ces critères d'accessible à tous, de gouvernance partagée, ils ont été tout de suite posés comme une évidence, comme des critères constitutifs de ce que sera le projet, ou c'est venu plus tard?
Pour moi, c'était une évidence. Okay. C'était remplacer, justement, le boulot de l'État, et donc, ça paraît évident de faire ça, quoi.
Ok. Et quelles ont été, alors, à partir du moment, parce qu'on imagine bien, c'est une chose de se dire, allez, on va constituer notre propre portail, on imagine bien que le mettre en œuvre, c'est une autre paire de manches, déjà, parce qu'il faut s'organiser, j'imagine que techniquement, ce n'est pas si simple, voilà, comment ça s'est mis en place, quelles difficultés, quels enjeux, les principaux, avez-vous dû affronter, entre guillemets?
On les affronte encore.
On les affronte encore, oui, parce que voilà, ça fait un an que vous avez commencé vraiment, ouais. Donc effectivement, on imagine que ça prend plus de temps que ça.
Enfin, le projet de faire une plateforme, donc ça voulait dire effectivement développer tout le code pour avoir un logiciel qui permette de faire l'envoi, la réception, la connexion à l'annuaire, à l'État, au réseau d'échange de factures entre les plateformes. Ça représente un chantier assez colossal et un gros budget. Bon, aujourd'hui, clairement, on ne l'a pas. On a des gens qui sont très motivés, qui sont en train de voir quand même si on peut y arriver. Voilà, mais que pour l'instant, qui font ça de façon bénévole pour l'instant. La deuxième option sur laquelle on est en train de travailler, qui est en train de dire, bon, on n'arrivera peut-être pas effectivement à avoir cette plateforme pour le 1er septembre 2026, mais on pourrait peut-être l'avoir en 2027. Et dans l'intervalle, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas déjà monter un groupement d'achat avec toutes ces personnes, des entreprises, des intégrateurs de logiciels ERP et donc leurs clients pour du coup, au lieu d'aller chacun de notre côté acheter entre guillemets des accès et quelques dizaines, centaines de factures de droits à échanger des factures, de se regrouper pour plutôt aller négocier un tarif de gros avec une plateforme.
Voilà. D'accord.
Et là, de mutualiser tous nos volumes pour faire baisser le coût au plus bas possible, quoi.
D'accord. Okay. Ce qui vous permet le temps de développer ce portail, d'être en mesure de proposer aux personnes qui utilisent vos solutions,
nos adhérents,
qui puissent continuer à les utiliser en étant conformes à la réglementation.
Ouais. Okay. Généralement, ce que je leur dis, c'est que nous rejoindre, c'est toujours gagnant, parce que au mieux, on a le portail, et donc on peut garantir une transparence que les autres PDP ne peuvent pas forcément garantir. Et si on l'a pas, au pire, vous aurez un prix avantageux, parce qu'on aura acheté au volume.
D'accord. Donc là, celles et ceux que vous appelez à vous rejoindre sont plutôt les entreprises qui proposent des solutions de facturation et qui ont besoin de passer par un portail.
Pas forcément.
Donc. Ah, pas forcément.
Enfin, aujourd'hui, c'est la majorité des gens qui ont rejoint le mouvement. Mais maintenant, ça sera clairement ouvert à toute entreprise, association, structure qui rentre dans les obligations de la facturation électronique et qui voudra connecter son logiciel à une plateforme.
D'accord, ça me paraît plus clair. Très bien. Vous êtes combien pour le moment dans PDB? Parce que là, vous êtes en train de vous structurer comme une association. Je sais que ça a fait partie aussi des échanges, sous quelle forme, si on a le temps, peut-être qu'on pourra même parler de votre choix organisationnel. Mais là, voilà, vous êtes combien dans PDP Lim?
Alors, le nombre, il doit y avoir...
J'ai compté.
T'as compté?
Alors, dans les membres fondateurs, on est 24. Et on est 15 dans le bureau, le conseil administratif.
D'accord.
Par contre, en tant que... Alors, pas vraiment adhérent, parce que l'association est toujours en cours de création. On attend que le greffe, que la préfecture nous fasse un retour. Si vous avez un contact à la préfecture du Rhône, on est preneur, d'ailleurs.
L'appel est passé. Donc, voilà, si vous avez un contact pour faciliter le dépôt des statuts, l'acceptation, voilà, pour officialiser tout ça, PDP libre, et voilà, n'hésitez pas à les contacter. Voilà. Pardon.
Continuez. Et donc, on a un forum pour pouvoir échanger, etc. Donc on doit une cinquantaine d'inscriptions par mois, et actuellement on a plus de 130 personnes.
Je crois que c'est du discours pour les personnes que ça intéresse, si je me trompe pas.
C'est ça.
Voilà, qui est un logiciel libre de forum. Parfait. Quels sont... Alors là, j'imagine que vous avez plusieurs chantiers en cours. Est-ce que vous voulez en mentionner un ou deux ou trois? Enfin, d'ailleurs, sur quoi vous travaillez précisément en ce moment? Est-ce qu'il y a des difficultés en particulier que vous essayez de...
Moi, pour moi, aujourd'hui, il y en a quatre.
Vas-y.
Il y a des chantiers qui sont techniques, qui sont comment on va connecter, donc là, qui concerne ceux qui développent des logiciels ou qui ont des plateformes qui émettent des factures ou qui en reçoivent, comment je vais techniquement me connecter à une plateforme, émettre mes documents, les recevoir, etc. Donc là, c'est un travail technique, comment j'intègre cette réforme dans mon logiciel. Il y a un groupe sur la partie, effectivement, ce qu'on appelle nous la PA, donc la plateforme, future plateforme agréée communautaire, donc là, qui viserait à remplacer cette plateforme externalisée. Alors, une partie communication qui s'organise un petit peu. Là, l'objectif, c'est d'expliquer la réforme, parce qu'il y a encore aujourd'hui un énorme boulot de ce point de vue-là à faire. L'axe effectivement de recherche, le quatrième, de recherche d'une plateforme agréée, une PDP, pour mutualiser éventuellement, voilà, nos volumes. C'est un peu les quatre grands axes de travail aujourd'hui.
D'accord. Et ben, comme on a le temps, et c'est l'intérêt, je trouve, d'avoir une heure d'échange au total, on peut peut-être, si vous voulez, ce que je pense que vous cherchez, ce que je comprends bien, par exemple sur la technique, l'axe de développement du portail. Si je comprends bien, vous, pour le moment, c'est essentiellement, si ce n'est exclusivement de la réflexion bénévole, enfin du temps de développement bénévole. Est-ce que vous cherchez aussi à recruter, à faire venir des gens pour vous aider là-dessus, ou vous en êtes à quel stade de ce... Ou s'il y a des solutions techniques, voilà. Alors, on cherche à être une émission grand public, donc on va essayer de trouver une équipe dans le jargon, mais je pense qu'il y a aussi des personnes qui nous écoutent qui peuvent être intéressées par les choix que vous faites, les difficultés que vous rencontrez, et comment vous essayez de les surmonter.
Alors, sur la partie, il y a deux chantiers. Il y a l'intégration si vous avez aujourd'hui un logiciel qui émet des factures ou qui en reçoit, quelle que soit l'activité, ça peut être effectivement intéressant de rejoindre l'association pour venir vous partager, entre guillemets, les techniques que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour générer des factures de façon dématérialisée, des choses comme ça. Comment vous allez vous connecter aux interfaces de programmation qui ont en partie normalisé aujourd'hui. Donc là, ça peut être intéressant pour venir mutualiser un petit peu tout ce travail. Donc là, j'ai envie de dire, c'est une première catégorie. Et après, effectivement, s'il y a des gens qui ont envie de développer donc la plateforme, là, on parle de la plateforme qui va permettre d'envoyer, de recevoir les factures, la plateforme sur laquelle vont venir se connecter les logiciels, là, on est très intéressé par des gens, soit qui ont de l'expérience dans... déjà la dématérialisation de fichiers, de factures, hein, de manière générale, qui ont l'expérience dans dans la conception d'outils qui vont gérer des très gros volumes, parce qu'on va quand même générer des très gros volumes. Il faut que ça soit fiable. Donc voilà, c'est pas du petit développement simple qu'on veut faire. Hein. C'est assez.
C'est un gros, c'est un projet ambitieux. Oui, c'est ce qu'on avait.
Voilà. Donc effectivement, là, c'est une deuxième population de développeurs, hein, notamment.
C'est sur quel langage que vous travaillez ?
C'est pas figé.
Pas figé, d'accord.
Donc si vous voulez participer un peu au choix, à ces choix-là, c'est on est en plein dedans.
D'accord, moi je me dis que ça peut être aussi une aventure assez intéressante techniquement à rejoindre. Ouais. Super. Florent,
je rajouterais. Oui, vas-y. Alors déjà, même si vous n'êtes pas développeur, on recherche quand même des personnes, parce que notamment sur tout ce qui est la communication, pour rédiger des articles, pour expliquer la réforme, qui s'est impacté, les impacts, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire.
Ouais, c'est un autre pilier qu'évoquait Philippe. Oui, ben on peut parler de cette communication. Vous avez mis en place un site récemment. Vous essayez d'être sur les réseaux, parce qu'effectivement, il faut expliquer la réforme. On se dit, du coup, pourquoi est-ce que l'État ne l'explique pas? Bon, et puis d'expliquer l'intérêt de passer par PDP Libre. D'ailleurs, il y a des pourquoi choisir PDP Libre. Là, je vois sur le site différentes explications. Bah, voilà. En termes de communication, quels sont pour vous les axes principaux quand vous essayez de convaincre de la pertinence de passer par une structure comme PDP Libre?
Alors. Je reprends juste le site. Alors le site, c'est un travail qu'a fait Florent à la base d'ailleurs, qui a été partiellement amendé. Alors il y a un gros boulot là-dessus. On a commencé à créer un certain nombre de contenus qu'il va falloir qu'on pousse dessus. Mais c'est sûr que ça, c'est quelque chose sur lequel on aurait effectivement besoin d'aide. On est en train de voir pour essayer de faire peut-être déjà un premier webinar. Pour expliquer effectivement qu'est-ce que c'est que la réforme, et puis que les gens puissent venir poser leurs questions, qu'on puisse y répondre, puis que ça serve un peu à créer derrière effectivement un référentiel de questions-réponses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour expliquer simplement la réforme. On le voit, enfin, je ne suis pas sûr que tout le monde ait. Qu'on était très très clair sur notre explication en première partie de l'émission. Mais il y a là-dessus un gros boulot. Et effectivement, expliquer l'intérêt de notre démarche, en plus, qui est de rendre la réforme le plus accessible possible, hein, financièrement et en termes de mise en œuvre. Parce que je pense que là aussi, il ne faut pas sous-estimer, en tout cas pour certains types d'entreprises. Alors moi, je ne travaille pas beaucoup avec les micro-entreprises, je travaille plutôt avec des PME, et ça peut être complexe potentiellement. Donc il y a tout un travail préparatoire aussi à faire. Hein. C'est pas juste le 1er septembre 2026 où on va cliquer sur un bouton. Et voilà, il va falloir référencer comme il faut toutes les entreprises avec qui on facture, pour leur envoyer les factures au bon endroit. Parce que si elles ne les reçoivent pas, vous ne serez pas payé. Donc il y a vraiment un énorme boulot d'explication et d'accompagnement pour la mise en place de cette réforme. Et c'est sûr qu'on a besoin de gens qui aident à vulgariser ce sujet qui n'est pas simple.
Oui, bah c'est aussi ce qu'on essaie de faire avec cette émission, et c'est sûr que c'est pas en 20 minutes que vous allez pouvoir poser tout, mais ça permet aussi peut-être déjà de se rendre compte que ce n'est pas si simple et que ça demande à prendre du temps. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que finalement, là il y a des obligations légales qui vont arriver très rapidement, qu'il va falloir respecter, se mettre en conformité. Et autant le faire d'une manière qui ne crée pas de nouvelles dépendances à des nouveaux acteurs privés, qui ne coûte pas un bras, parce que ça va effectivement générer de nouveaux frais si on doit payer un nouveau forfait, un nouvel abonnement à une entreprise sur un nouveau marché, et que justement c'est tout l'intérêt. Ça aurait été normalement le but d'une plateforme gratuite maintenue par la puissance publique, mais puisqu'il y a eu cet abandon, vous pouvez trouver une autre solution que de passer, de créer ces nouvelles dépendances. Donc que vous inviter à, si vous êtes concerné, et apparemment beaucoup de gens seront concernés, à aller peut-être creuser ce sujet du côté de PDP Libre par les webinars que vous avez évoquer tout ça. Et puis en plus il y a, et ça tu l'avais évoqué au début Philippe, les enjeux aussi juste de alors c'est un mot un peu valise, mais qui veut dire quelque chose quand même, des valeurs, quoi. C'est-à-dire que on se retrouve dans, et j'ai envie qu'on parle un petit peu de ça, voilà, dans un projet où il y a une réflexion sur la gouvernance partagée, etc. Et justement, je me demande comment vous vous avez adressé, c'est comment vous fonctionnez d'un point de vue de gouvernance, tout simplement.
Je voudrais juste rajouter
un point. Vas-y, Florent,
oui. Pour j'y pense, dans le côté où la réforme, elle est à la fois loin et proche. C'est que c'est suffisamment proche parce que si vous avez, il faut réfléchir sur les flux, ça peut avoir plein d'impact sur comment on rédige la facture, on les voit, etc. Donc il faut s'en intéresser. Mais il faut pas non plus se précipiter pour souscrire à un PA qui existe actuellement. Parce que justement, vous avez quand même le temps, c'est jusqu'à septembre. Donc il y a quand même le temps pour voir les offres, qu'est-ce qu'ils proposent, etc. Parce que ça a des impacts. Justement, si potentiellement vous avez envoyé toutes les données à un concurrent. Donc il faut quand même réfléchir à quel portail, même si vous ne prenez pas chez nous.
Moi, ce que j'entends, c'est que ça peut valoir aussi le coup d'investir ce temps-là, de profiter de l'année qui vient là pour investir ce temps sur cette réflexion, plutôt que de faire ça dans la précipitation et en fait se retrouver un petit peu captif, de devoir payer plus cher. Donc il y a un investissement, en faire prendre ce temps, c'est un investissement financier et puis aussi sur le long terme, quoi.
Surtout qu'il y a, enfin voilà, aujourd'hui il y a une grosse pression commerciale qui est mise par tous les acteurs déjà en place.
Hein. Oui, on imagine le démarchage doit être important.
Les banques, les cabinets d'expertise comptable, qui elles sont souvent entre guillemets mariées à un logiciel comptable, majoritairement, voire presque exclusivement aujourd'hui propriétaire. Hein. Donc mariés à une plateforme du logiciel propriétaire, donc ils vont essayer d'aspirer de tous leurs clients dessus. Donc il y a une grosse pression. Il faut bien retenir qu'actuellement toutes les plateformes sont agréées à titre provisoire. Elles doivent passer, encore prouver qu'elles sont aptes techniquement et fonctionnellement à supporter les flux. Donc ça, c'est des tests qui sont en cours.
Et qui est-ce qui agrée d'ailleurs? Qu'est-ce qui agrée tout ça? C'est l'État lui-même?
C'est la DGFiP.
Ouais. DGFiP, d'accord. Ouais, général des finances impôts publics.
Voilà. Donc, ils doivent passer un certain nombre de tests. Voilà. Et après, ils deviennent agréés. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune plateforme, même si on les a renommées en plateforme agréée, qui est agréée. C'est un peu le truc rigolo. Mais ça va arriver, ça va commencer à arriver d'ici la fin de l'année. Donc là, on peut compter sur tous ceux qui vont avoir l'agrément final pour, pareil, remettre un coup de pression énorme. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut prendre son temps, comme le dit Florent, et clairement pas d'urgence. Voilà, début 2026, il sera bien temps effectivement de commencer à regarder ça. Et il y a encore énormément de logiciels, de toute façon, qui sont encore en cours d'implémentation de ce qu'il faut pour se connecter à ces plateformes. Donc voilà. Même si, alors on a de la chance quand même, il y a un point qui n'a pas été oublié dans cette réforme, on n'en a pas parlé, mais les logiciels, quand ils vont se connecter à ces plateformes, vont pouvoir utiliser une interface qui a été normalisée par l'AFNOR. Donc on devrait avoir une portabilité, dans les faits il faudra voir, mais théoriquement on devrait avoir une bonne portabilité, c'est-à-dire pouvoir changer facilement de plateformes agréées demain si...
Puisque toutes les factures seront émises sous un format voilà, d'explication ouverte, etc. Et on va, c'est oui. Pour reprendre l'exemple de la bureautique, on va pas être coincé dans un format que seul un logiciel est capable de lire. Non. Ce format-là, tout logiciel sera capable de l'intégrer, parce que ce sera le seul format utilisable dont les spécifications techniques sont connues. Et donc voilà, on ne sera pas captif par les formats de données, ce qui est extrêmement important. Oui. Tu fais bien
les
de le rappeler.
Les formats et les interfaces et l'interface oui. De programmation.
Oui, oui, oui.
Donc ça va au-delà du format.
Bien sûr. Oui.
Qui est quand même pas trop mal. Moi, j'avais très peur qu'il n'y ait pas ce genre de choses-là, parce que là, ça veut dire qu'il fallait implémenter une connexion par plateforme, et là, on se retrouvait dans un système où il n'y avait pas de portabilité, on ne changeait pas de plateforme comme ça, où on devait être vraiment marié pour la vie avec une plateforme ou presque. Donc, on a un peu de chance quand même dans notre malheur, et à ce point-là, qui n'a pas été oublié.
Bon, tant mieux, tu fais bien de le rappeler, c'est des enjeux extrêmement importants, effectivement. Moi, j'aimerais qu'on parle de ce que vous en avez évoqué. Je trouve ça intéressant comment vous avez choisi, les modèles de gouvernance que vous avez choisis. Et notamment, je me sens forme que c'est globalement une force du logiciel libre, c'est que par exemple, les personnes qui utilisent les logiciels font partie aussi de la communauté. Et c'est tout l'intérêt de rejoindre des structurations comme ça, c'est qu'on peut revenir aussi avec ses besoins spécifiques et on contribue à l'élaboration. Et ce qui permet aussi d'avoir des outils qui sont beaucoup mieux adaptés à nos réalités techniques, à nos besoins. Et ça, c'est toujours une force aussi des projets contributifs, comme me semble être l'ambition de PDP Libre, en tout cas tel que je vous ai entendu. Et ça passe notamment du coup par une gouvernance qui se veut, et c'est ce que vous exprimiez, transparente et communautaire.
Ouais, parce qu'en fait, ça regroupe vraiment des acteurs de tout horizon, hein, et pas que du monde du logiciel libre, et je trouve même ça c'est bien, parce que du coup, voilà, il y a un vrai esprit de mise en commun de toutes les problématiques qu'on va rencontrer, techniques, fonctionnelles, autour de la mise en place de la réforme. Donc plutôt que de travailler chacun dans notre coin à redécouvrir les mêmes problèmes et les mêmes solutions, là on a quand même moyen avec notre plateforme de gérer collaborative, de gagner beaucoup de temps pour tout le monde. Quoi. C'est important. Oui.
Florent, tu avais un mot à dire là-dessus?
Ouais, après, je sais pas si tu veux rentrer un petit peu plus en détail, j'ai l'impression que tu voulais...
Oui, je pense que c'est intéressant de voir...
Donc, quand on a voulu créer l'association... Bah, c'est comme les structures, je t'expliquais plus tôt sur les sociétés. Il peut y avoir plein d'organisations différentes. Et donc, en creusant, ce qui nous a semblé pas mal, c'était tout ce qui était société coopérative d'intérêt collectif. Et c'est un avantage parce que, dans les respects, c'est les règles de coopérative, donc une personne, une voix. Tout ce qui est lucratif est limité dans les statuts, etc. Et ça inclut aussi tout ce qui est tous les acteurs économiques, donc ça peut être public, privé et communautaire, quoi.
D'accord. Et je vous dis donc qu'il y a un conseil d'administration qui est que vous avez. Alors, vos statuts sont pas encore sont pas encore officialisés, oui, c'est ce que vous disiez, mais encore vous fonctionnez avec un conseil d'administration qui est quoi, élu parmi les membres de l'association. C'est l'idée.
On a fait une AG constitutive hein, où il y avait les 24 personnes, je crois que cité tout à l'heure, les 24 structures, hein, parce que alors, l'adhésion à PDP Libre, effectivement, dans nos statuts, elle est entre guillemets restreinte, il faut avoir un CIRET fan, un CIREN. Donc c'est plutôt donc des structures juridiques qui peuvent adhérer à PDP Libre parce que bon, un particulier, ça n'a pas de sens quelque part, parce qu'il n'est pas assujetti à la facturation électronique. Donc bien entendu, un micro-entrepreneur peut tout à fait, puisqu'il y a un numéro CIREN, peut tout à fait adhérer à PDP Libre. Donc, c'est juste qu'on a cette entre guillemets barrière, mais qui est assez cohérente avec l'objectif de l'association. On a prévu des collèges pour différencier effectivement les éditeurs, intégrateurs de logiciels, de gestion, un collège utilisateur, donc là plutôt pour les entreprises finales, micro-entreprises qui vont venir adhérer à PDP Libre pour bénéficier des tarifs et des services de l'association. Voilà, et donc chaque collège, il y propose un nombre égal, je crois que c'est 4 par collège, qui vont constituer ensuite le CA.
Ok, intéressant. On arrive sur la fin de l'émission. Alors avant de vous proposer un mot conclusif chacun, je vois une question qui vient sur le webchat de l'émission. Les associations qui émettent des factures pour les cotisations de leurs membres, personnes morales, seront concernées aussi. Seront-elles concernées?
Alors, sur l'envoi des factures, je pense pas. Par contre, je pense qu'elles seront concernées par la réception potentielle.
Mais après, c'est une bonne question, parce que... Alors, je sais pas si une cotisation, c'est vraiment dans le scope. Parce que c'est un peu particulier, une cotisation. Après, des fois, il y a l'abus de langage sur vraiment ce que c'est une cotisation. Mais en tant que tel, si je dirais bêtement, vu qu'ils facturent, à une entreprise, bah du coup la facture doit passer par un portail. Mais donc, bon, je suis pas sûr à 100%.
Donc c'est pas ça, mais ça montre bien que la réforme est... Je pense que la question, voilà, c'est nous, par exemple, le cas de l'April, l'April a des membres personnes morales qui cotisent et certaines nous demandent des factures au moment de leur cotisation, parce que normalement, c'est voilà, tous les ans, au moment de payer la cotisation, ils demandent l'émission d'une facture. Donc, je pense que c'était le sens de la question, mais voilà, il y a encore des choses à trancher, quoi, c'est ça.
Je pense que du coup, ça va rentrer dedans. Okay. Même s'il n'y a pas de TVA, parce que l'idée, c'est de collecter la TVA, mais... En fait, le texte de loi, la réforme s'applique à tous les assujettis établis en France, même ceux non redevables de la TVA.
D'accord.
Donc, la plupart des structures sont en France sont assujetties à la TVA, mais par contre, il peut y avoir des critères, et donc notamment, il y a la franchise de base, on appelle, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires ou d'autres critères, qui font qu'on n'est pas obligé de passer au régime de TVA. Donc ça fait qu'on est toujours assujetti à TVA, on facture pas la TVA, et par contre, qu'on dépasse le seuil, bah là on devient redevable. Et donc on facture à TVA.
D'accord. En tout cas, les personnes qui ont un doute, on les invite à se renseigner, potentiellement auprès de PDP Libre, qui essaie justement de communiquer là-dessus. Voilà, on arrive à la fin de notre émission, j'aimerais vous laisser quand même au moins une minute chacun... pas trop, plus si possible, pour peut-être, si vous avez voilà, un point fort que vous aimeriez que les personnes qui nous ont écoutés retiennent. Je sais pas qui veut se lancer en premier. Allez Florent, t'avais la parole, continue.
D'accord.
Pas simple, je sais.
Moi je pense qu'on a fait bien le tour. Je vous dirais, effectivement, prenez le temps de vous renseigner. Ne plongez pas... dans la pression commerciale que vous pouvez recevoir, spammée par des éditeurs. Intéressez-vous au sujet et rejoignez-nous.
Le mot est passé. Philippe ?
Moi, ouais, j'allais dire la même chose. Je pense qu'il faut vraiment s'intéresser au sujet et ne pas céder, à la pression, aux pressions qui vont être très fortes dans les mois qui viennent.
Voilà, il y aura une pression. Donc voilà, renseignez-vous et PDP Libre est aussi là pour ça. Une réponse communautaire donc à une réforme qui est complexe mais qui va arriver donc 1er septembre 2026, 1er septembre 2027, c'est les dates à avoir en tête. En tout cas, merci à vous deux, donc Philippe Scofoni, Florent Pellet, excuse-moi.
C'est Pellet.
Pellet, désolé. Voilà, donc président et vice-président de l'association PDP Libre, qui a donc vocation à rendre accessible la facturation électronique au plus grand nombre. Merci encore à vous deux. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et bon courage pour la suite de vos projets.
Merci.
Merci à toi.
À bientôt. Nous allons à présent faire une pause musicale. Nous allons écouter Boot on Your Face par System Failure. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
I ain't that sweet and I don't find it funny. And I'm not your sugar, sweet I can be with my boot on your face, my boot on your face.
Nous venons d'écouter Put On Your Face par System Failure avec un super solo de Kazoo disponible sous licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC by SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu de l'April, nous allons passer à notre dernier sujet. Nous allons poursuivre avec une rediffusion de l'humeur de G du 7 octobre dernier, car il est toujours temps de dire adieu Windows et d'encourager nos proches à faire de même. Et que vous l'entendrez, cette chronique s'inscrit parfaitement dans cette très belle journée du 21 octobre 2025 si vous nous écoutez en direct. Donc je vous laisse donc avec G, on se retrouve juste après en direct sur Cause Commune.
Si vous me suivez un tant soit peu, le titre de cette chronique vous interroge peut-être. En effet, j'ai pour ma part quitté le système d'exploitation de Microsoft, le fameux Windows, depuis longtemps. Pour vous donner une idée de l'époque où je suis passé sous GNU Linux, que j'aime appeler affectueusement GNU Linux, c'était pendant la présidence d'un type qui a accédé à son poste en fomentant une association de malfaiteurs pour négocier avec un terroriste ayant assassiné 170 personnes pour financer sa campagne avec de l'argent d'une dictature. Quelle période, hein, là. Bon, oui, je sais, il a fait appel, donc il est présumé innocent, ça va, ça va. Bon, bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Windows, et pour ma part, j'ai donc dit adieu à Windows il y a bien longtemps, mais si je vous parle de dire adieu à Windows aujourd'hui, c'est parce qu'on parle pas mal de quitter Windows en ce moment pour une raison simple, la fin du support de Windows 10. En effet, Microsoft avait annoncé l'arrêt des mises à jour de cette version de son système d'exploitation le 14 octobre 2025, la semaine prochaine donc, hein. Ce qui posait tout un tas de problèmes, puisqu'un système sans mise à jour peut très vite devenir un système vulnérable aux attaques. Alors, sous la pression de pas mal de gens, notamment ceux de l'association Halte à l'obsolescence programmée, Microsoft a, dans son immense mensuétude, allongé le délai de support d'un an, et celui-ci ne prendra donc fin qu'en octobre 2026. Ce qui évidemment ne fait que reporter le problème, mais ne le résout pas. Et ne le reporte d'ailleurs que partiellement, et pas forcément gratuitement non plus. Alors quel problème, me direz-vous ? Bon, en fait, il y en a plusieurs. Déjà, si l'association Halte à l'obsolescence programmée a milité contre cette fin de support, c'est bien entendu pour des questions d'obsolescence programmée. Non, il n'y avait pas de piège dans la question. Oui, parce qu'évidemment, fuite en avant technologique oblige, Windows 11, le successeur, n'est pas forcément compatible avec tous les ordinateurs tournant sous Windows 10. Ce qui veut dire que si vous avez un de ces ordinateurs et que vous voulez continuer d'avoir un système à jour et sûr, eh bien vous n'aurez pas le choix que de racheter un nouvel ordinateur, même si votre actuel fonctionne toujours. Il n'est pas matériellement obsolète, on a programmé son obsolescence. Ce qui pose évidemment des problèmes éco. Oui, des problèmes économiques, bien sûr, puisqu'une licence Windows, bah, ça coûte des sous. Et écologiques, surtout, puisqu'encourager un renouvellement de matériel pourtant toujours fonctionnel, bah, ça a un impact écologique loin d'être négligeable. Pour les gens qui sont encore persuadés que trier ses mails, c'est le nec plus ultra pour avoir des pratiques numériques plus responsables écologiquement, je leur rappellerai que la fabrication des terminaux représente quasiment 80% des émissions de gaz à effet de serre du numérique. Donc, arrêtez de perdre du temps à trier vos mails et essayez de garder vos ordis plus longtemps. Oui, mais alors vous allez me dire comment qu'on fait pour garder nos ordinateurs plus longtemps si Microsoft arrête le support. Eh bien, on peut passer sous GNU Linux, que les gens connaissent souvent sous le simple nom de Linux, et que moi je préfère encore une fois appeler GNU Linux parce que c'est mignon et que ça ne froisse personne. Enfin, je crois pas. GNU Linux, c'est libre, c'est gratuit, ça ne vous espionne pas, c'est léger, et ça marche donc même sur du matériel pas tout neuf. Alors oui, tous vos logiciels préférés n'y fonctionnent pas forcément encore que. Si votre usage de l'informatique se compose principalement d'internet, mail, bureautique et regarder des vidéos, honnêtement, ça marche aussi bien que Windows. Pardon, ça marche mieux que Windows même. Et même la plupart des jeux vidéo maintenant, grâce à Steam entre autres, bah ça tourne sans souci. Bon alors, je sens venir les remarques. Oui, mais installer GNU Linux, c'est super compliqué. Entre le choix de la distribution, le partitionnement des disques, le choix des dépôts, free, non-free, tout ça. Alors, réponse lapidaire qui va agacer beaucoup de libristes, mais peu importe. En distro, vous prenez Linux Mint et à l'installation, vous cliquez sur suivant en boucle. Et c'est bon, vous avez votre GNU Linux fonctionnel. Oui, je sais, il y a les parties création d'une clé USB bootable et démarrage sur la clé qui reste complexe. Ok. Mais alors pardon, j'aimerais bien voir des gens installer un Windows et me dire que c'est plus simple, je sens qu'on va rire. En fait, la majorité des gens n'installeront que dalle et garderont un Windows à 10 non mis à jour, ce qui est dangereux, ou changeront de PC, ce qui est du gaspillage. Bon, en fait, oubliez ma réponse sur Linux Mint et compagnie. La bonne réponse, c'est de trouver des gens pour vous aider. Partout en France et ailleurs dans le monde, on a des petites assos, des GUL, groupements d'utilisateurs et utilisatrices Linux, et plein d'autres gens qui seront ravis de vous aider lors d'une install party. C'est aussi en cela que GNU/Linux est infiniment supérieur à Windows, un réseau d'entraide pour que vous ne vous retrouviez pas seul ou en discussion en ligne avec une connerie de bot IA qui vous recrachera juste la documentation, mal en général. Croyez-moi, une fois qu'on a sauté le pas, difficile de revenir en arrière. Personnellement, quand je dois retourner sur un Windows, j'ai la même sensation que quand j'ouvre une page web sans bloqueur de pub, ou quand je tombe sur une chaîne de télé après des années à ne plus avoir regardé la télé. Je me dis, mais bon sang, comment les gens peuvent-ils supporter ça à longueur de journée ? J'ajoute que j'ai installé mon Linux Mint actuel lors de l'achat de mon PC il y a plus de 5 ans. Depuis, j'ai pu gérer toutes les mises à jour sans avoir à jamais toucher un terminal, même les mises à niveau d'une version à l'autre, l'équivalent de passer de Windows 10 à 11 donc, ben, une fois installé, ça roule tout seul, c'est facile et surtout, ça vous fout la paix. Mais j'ai déjà fait des chroniques sur ces sujets, alors je vais m'arrêter là. Si le sujet vous intéresse, avec l'April, on a lancé une campagne de communication qui s'appelle justement Adieu Windows et qui recense et met en valeur les différents événements comme les install parties organisées par les GUL et autres assos. Merci d'ailleurs à tous les gens qui participent à rendre notre communauté plus accueillante et sans qui notre numérique serait beaucoup plus triste et aussi austère qu'un Windows en fin de vie. Alors je vous dis salut, adieu Windows et bonjour le libre.
Nous venons d'entendre une rediffusion de l'Humeur du Geek du 7 octobre dernier. Vous écoutez Libre à vous en direct sur Radio Cause Commune et nous allons passer à présent aux annonces de fin d'émission. Alors, dans les annonces, alors pour commencer, je vous rappelle que les liens utiles concernant les annonces de fin sont sur la page consacrée à l'émission du jour, libreavoue.org/258, et oui, c'est la 258e émission, ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez en podcast. Alors nous allons parler de facturation électronique, c'était le sujet principal, et pour cette première annonce, on reste en lien avec ce sujet dans l'actualité de l'April. Vous en souvenez peut-être, l'association s'était mobilisée l'année dernière pour défendre la possibilité pour les éditeurs et intégrateurs de logiciels libres de caisse d'attester elles-mêmes de la conformité de leur solution à la loi. Malheureusement, la certification a été rendue obligatoire, une solution très lourde et disproportionnée. Le projet de loi de finances pour 2026 est à présent l'occasion de rétablir l'auto-attestation, et un amendement en ce sens a même été déposé en commission des finances de l'Assemblée. Nous encourageons les députés à l'adopter, et nous vous encourageons, vous, à leur écrire pour les appeler à le faire. Plus d'informations sur le site de l'April. Et puisqu'on parle du projet de loi de finances pour 2026, c'est aussi un projet de loi de finances qu'on peut qualifier d'un cataclysme budgétaire qui menace les radios associatives françaises. Je m'explique. Le modèle économique de Cause Commune fonde sa pérennité sur son indépendance vis-à-vis d'éventuelles recettes publicitaires et concentre son appel aux fonds publics à la seule subvention d'exploitation FSER, Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit tout simplement une coupe de 44% de ce fonds. Nous vous encourageons ici encore à agir en contactant vos députés pour leur signaler cette alerte et votre attachement à l'existence des radios locales associatives. N'hésitez pas à utiliser vos propres mots et même une phrase peut suffire. Depuis 3 ans, la situation financière de l'April n'est plus à l'équilibre. L'année dernière, grâce à un magnifique élan de soutien, la campagne du Lama des chez nous a permis de boucler le budget. Malheureusement, les restrictions budgétaires des collectivités, la baisse du chiffre d'affaires des entreprises, l'érosion des membres physiques font que l'April a besoin de 30 000 euros pour finir sereinement l'année 2025. Il nous a donc paru opportun de relancer une campagne d'appel à soutien. Alors plutôt que d'aller chercher du financement auprès de dictatures étrangères, par exemple, nous avons décidé de relancer le Lama déchaîné. Le numéro 0 est déjà disponible et le numéro 1 devrait être publié demain, mercredi 22 octobre. Bien sûr, je rassure les passionnés de mots croisés, ils continueront à trouver leur bonheur dans cette nouvelle version du Lama déchaîné. J en parlait dans la chronique que nous venons de rediffuser, l'opération Adieu Windows, bonjour le libre, suit son cours. Vous pourrez trouver les événements près de chez vous qui proposent de l'aide pour installer un système d'exploitation libre sur son ordinateur pour vous et vos proches. Mentionnons par exemple le 23 et 30 octobre du côté de Nantes, comme tous les jeudis, un Reaper Café et une install party au centre socio-culturel de Bellevue. À Saint-Ouen, samedi 25 octobre, l'association Les Valoristes propose une journée d'installation GNU Linux. À Tours, le 28 octobre, comme tous les mardis, une permanence d'installation au centre socio-culturel Gentiana. Plein d'autres événements estampillés Adieu Windows sont à retrouver sur l'agenda du libre ainsi que toutes sortes d'événements autour du logiciel libre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Benjamin Villaby, Philippe Scofoni, Florent Pellet, G. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Julie. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production. Des podcasts, Samuel Aubert, Elie-Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann. Et Olivier Gréco, directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet. Quentin Gibaud, Théocrite, Tunui, tout bénévole à l'April et mon collègue Frédéric Couchet. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, comme toujours, mardi 28 octobre à 15h30. Notre sujet principal portera sur Numéricoop, une agence web coopérative d'accompagnement pour les projets numériques qui utilisent bien sûr des logiciels libres, un sujet qui sera animé par Laurent Costi. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée, on se retrouve donc en direct mardi 28 octobre et d'ici là, portez-vous bien et surtout la santé.
Cause commune, retour sur 93.1 à 21h et retrouvez nos programmes sur cause-commune.fm. Commune à Paris, 93.1 en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur à l'écoute de Radio Cause Commune. Nous sommes lundi, alors je sais plus exactement quelle date nous sommes, le 20 octobre a priori. Oui, c'est ça. On a des problèmes avec les noms, on a des problèmes avec les dates, mais si vous êtes un fidèle ou une fidèle auditeur ou auditrice de cette émission, vous êtes déjà au courant. C'est sous les abus de l'actu. Alors c'est l'épisode 110 ce soir, Patrick, et on inaugure peut-être une nouvelle séquence où nous serons pour les 100 prochaines émissions à l'horaire attendu, à savoir les lundis à partir de 21h et jusqu'à 23h. Je sais pas, c'est peut-être un truc qui va se passer.
On va essayer.
On va essayer. Alors, un sous les lapsus de l'actu qui va, comme d'habitude, être...